d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit Public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, la journaliste Christine Ockrent, le directeur du think tank Terra Nova Thierry Pech et l'essayiste Philippe Manière. Au sommaire de ce dimanche, après le discours de politique générale d'Édouard Philippe, acte 2 du quinquennat, le gouvernement a-t-il le bon sens des priorités? Et tandis qu'Hong Kong se rebelle contre un texte de loi made in China, y aurait-il donc une limite au rouleau compresseur de Pékin? Mercredi dernier, en regardant Édouard Philippe tenir son nouveau discours de politique générale, on ne se disait pas que l'on avait affaire à un tribun. Petite barbe et lunettes rondes austères, le chef du gouvernement avait d'ailleurs cité Mendès, Pompidou, Rocard et Juppé, qui n'étaient pas non plus connus pour enflammer les tribunes. Très attendu, ce discours avait pour mission de lancer l'acte 2 du quinquennat, après la crise des Gilets jaunes qui avait mis en péril le macronisme et après des élections européennes qui l'avaient plutôt réconforté en se limitant à une sorte de match nul entre LREM et le FN, un effondrement des deux vieux grands partis français de la droite et de la gauche et une percée notable des écologistes. Un discours d'Édouard Philippe qui avait laissé une impression générale bien synthétisée par Libération qui avait parlé d'acte 1 bis, soit une sorte de consolidation des fondamentaux du macronisme. Un petit coup à gauche avec la poursuite du dédoublement des classes de CP et CE1 dans les zones prioritaires, les aides aux familles monoparentales, les 30 000 places en crèche, la sanction du recours abusif au contrat court et, la grande annonce, la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Un petit coup à droite avec confirmation des baisses d'impôts, la mise en place prochaine d'un âge d'équilibre pour les retraites, ce qui revenait à faire travailler plus longtemps, la dégressivité annoncée de l'indemnisation pour les chômeurs, la tenue d'un débat annuel sur l'asile et l'immigration, sans oublier le nouveau grand message ciblé pour ces Français de plus en plus sensibles à l'écologie, avec un rappel de la fermeture des centrales à charbon d'ici 2022, de celle de Fessenheim, centrale nucléaire, avant fin 2020, et des annonces sur un objectif de 100% de plastique recyclé. Édouard Philippe osant ce trait d'humour, personne n'a le monopole du verre. En parallèle, on avait noté les propos présidentiels sur le changement philosophique de l'exécutif qui veillerait à ne plus opposer, je cite, la France des sachants à celle des subissants. Sauf qu'à la fin, demeurait l'interrogation fondamentale, ce discours était-il à la hauteur du contexte et des enjeux? Écologie, chômage, dette, défiance, malaise dans la fonction publique, le macronisme acte 2 avait-il le bon sens des priorités?
Voilà 2 ans maintenant que nous gouvernons et il y a toujours urgence. Peut-être davantage encore. Urgence économique, comme le crient les salariés des usines de Belfort, d'Amiens ou d'ailleurs. Urgence sociale, comme le crient nos concitoyens des territoires isolés, comme le disent les personnels hospitaliers. Urgence écologique, comme le crient les jeunes Français. Urgence politique. Le 26 mai, l'extrême droite est arrivée en tête des suffrages en France. En novembre dernier, nous avons rencontré la colère. C'est à nous, gouvernants, parlementaires, qu'elle était en premier adressée. Le gouvernement et la majorité entendent tirer la force d'un nouvel élan. C'est l'acte 2 du quinquennat. Une nouvelle étape qui marque une césure à travers un profond changement de méthode, mais qui va de pair avec 2 impératifs. La constance et la cohérence, qui sont bien les seules choses que notre pays n'ait jamais tentées.
Et vous aurez reconnu bien sûr Édouard Philippe, le Premier ministre, mercredi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Thierry Pech, on vient de l'entendre, il valorise une certaine constance et stabilité inédite, dit-il en France. Mercredi, vous avez analysé quoi sur cet acte 2 du quinquennat Macron? Pour vous, c'est le macronisme des origines ou c'est un macronisme spécial post-européenne?
D'abord, si on est dans une pièce classique, il faudra 5 actes. Au rythme où on est parti, on n'aura pas le temps d'en faire plus de 3, si je compte bien, d'ici 2022. Donc ça n'est ni une tragédie, ni une comédie classique qui se joue là sous nos yeux. Je crois que si on veut essayer de mettre en situation le discours de politique générale d'Édouard Philippe, il faut le rattacher à son contexte. Et il y a 2 facteurs qui pèsent lourdement sur ce contexte. D'une part, la sortie du mouvement des Gilets jaunes, qui s'est amorcée avec la conférence de presse du président de la République. Et de ce point de vue-là, le discours de politique générale est complètement en ligne avec le discours du président. Et on retrouve là d'ailleurs une division du travail constitutionnel parfaitement orthodoxe et classique dans la Ve République. Je crois d'ailleurs que le président n'ira pas faire de discours à Versailles devant le Parlement réuni au Congrès, contrairement à ce qu'il avait fait les deux premières années de son quinquennat. Donc on remet la Ve République sur sa base. Il y a un gouvernement pour animer le travail gouvernemental, un chef du gouvernement, je veux dire, et puis il y a un président de la République qui fixe le cap. Mais enfin, la sortie de ce mouvement des Gilets jaunes, elle correspond à une remontée de la question sociale sur l'agenda politique. Et donc, il était légitime d'attendre un discours un peu plus marqué à gauche, ou en tout cas, qui tienne un plus grand compte des exigences sociales qui s'étaient exprimées dans le pays ces derniers mois. Et puis, le deuxième facteur, c'est bien sûr les élections européennes. Et il joue presque à contre-courant du premier. Qu'est-ce qu'on a constaté dans les élections européennes? La fracturation de la droite républicaine classique, qui personnellement ne m'a pas surpris. J'ai souvent dit à ce micro que la crise de la droite n'était pas moindre que celle de la gauche, et là ça a éclaté de façon tout à fait évidente. Mais surtout, ce qu'on a observé, c'est que le parti majoritaire, statistiquement stable, s'était en réalité vidé de voix de gauche pour se remplir de voix de droite, et qu'au fond, il avait aujourd'hui à peu près la sociologie qui était celle de l'UDF autrefois. Et donc, si on veut tenir compte de ces deux grands facteurs, d'un côté, un mouvement des Gilets jaunes, une sortie du grand débat qui penchait plutôt sociale et plutôt à gauche. De l'autre, une élection européenne qui a donné à la majorité une assise plutôt de droite. Comment faire? Eh bien, pour ça, il faut un personnage de synthèse. Édouard Philippe est assez bon dans le rôle et il a acrobatiquement essayé de conjuguer ces différentes contraintes. Il est un homme de droite, il est un homme de ce centre-droite humaniste, républicain, mais assez conservateur, assez convaincu qu'il faut tenir le budget avec rigueur. Voilà, et il a fait un discours qui est assez marqué par des thématiques sociales. Donc dans l'ensemble, ça a d'ailleurs été l'objet de beaucoup de commentaires dans la presse. On a dit, voilà, l'acte 2 du quinquennat, il est un petit peu plus à gauche. Il y a bien sûr les commentaires à la Libération, mais il y en a eu d'autres qui étaient différents. Quand on regarde dans le détail, c'est très difficile de dire que ce discours est penché à gauche. En réalité, prenez les questions sociales. Retraite, la réforme que porte Jean-Paul Delevoye, le commissaire à la réforme des retraites, est une réforme d'équité dans son principe. Mais elle a été immédiatement polluée par un débat sur l'âge pivot, l'âge d'équilibre, est-ce qu'il ne faut pas retoucher aux 62 ans? Je sais bien que les gens de droite de ce gouvernement, en réalité, pensent qu'une réforme paramétrique qui aurait consisté à relever un peu l'âge de la retraite était la bonne solution, qu'il ne fallait pas s'embêter avec des réformes systémiques, de structure, etc. Donc il y a là une ambiguïté. Prenez l'assurance chômage. Vous en avez montré le visage de droite, Émilie, dans votre introduction, en disant que ça consistera à modifier les critères d'indemnisation des chômeurs. Oui, mais il s'agit aussi de lutter contre la précarité des contrats courts. Vous savez qu'on estime que la moitié des CDD de moins d'un mois signés dans l'Union européenne le sont en France. Donc en fait, tout ça est assez ambigu sur l'écologie. Je ne veux pas être trop long,
ambigu,
mais c'est la même chose.
Ambigu ou profondément macroniste, un coup à droite, non, un coup à gauche, non, que non. Vous appelez l'UDF au pouvoir, au fond, est-ce que...
Non, je ne dirais pas que c'est... D'abord, j'aurais beaucoup de mal à définir ce que c'est que le macronisme. En réalité, je pense qu'il y a encore...
Pourtant, je sais que vous en avez été un spécialiste aux origines.
Oui, aux origines. Il y a un certain suspense sur chacune de ces réformes. Et on va voir dans l'exécution ce qui va se passer. Et je voudrais terminer sur ce point. L'exécutif, c'est l'art de l'exécution. Il y avait dans le discours présidentiel, se dessinait dans le discours présidentiel, dans la conférence de presse, quelque chose que j'avais qualifié, moi, d'un nouvel art de gouverner, avec cette conférence citoyenne sur le climat, avec la volonté de rendre la balle aux ministres, au gouvernement, etc. Je ne l'ai pas vraiment retrouvé dans le discours du Premier ministre. J'ai le sentiment qu'il y a deux visages de l'exécutif. Il y a un visage présidentiel qui a voulu laisser penser qu'il avait compris qu'il fallait gouverner autrement, qu'il fallait consulter davantage, qu'il fallait plus de participation, plus de délibération. Et puis, il y a un Premier ministre qui est un homme d'un grand classicisme, un bon technocrate. Voilà. Et j'ai peur que les deux matchent difficilement dans les mois qui viennent.
Philippe Manière, à la fois sur la définition que vous faites, vous, de cet acte 2 du macronisme, et puis au fond, la question que soulève Thierry Pech et que se posent aujourd'hui tous les observateurs, est-ce que cet acte 2 est à la hauteur de la crise profonde qu'a connue la France cet automne et cet hiver?
Moi, je pense que le macronisme, puisqu'on cherchait à l'instant, je suis d'accord avec l'essentiel de ce qu'a dit Thierry à l'instant, on cherchait à le définir, je pense que c'est fondamentalement un opportunisme. Et de ce point de vue-là, je vois pas tellement de différence entre l'acte 1 et l'acte 2. C'est-à-dire que comme les conditions de l'expérience ont légèrement changé, pas tant que ça en réalité. Enfin, il y a eu le traumatisme des Gilets jaunes, il y a eu un certain nombre de choses qu'il fallait prendre en compte, il y a eu les élections européennes, vous l'avez mentionné. Eh bien, forcément, un opportuniste adapte légèrement sa posture en fonction de comment souffle le vent. Fondamentalement, moi, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de différence entre ce qu'on nous dit maintenant et ce qu'on nous disait avant, parce que fondamentalement, il n'y a pas véritablement d'ambition politique, il n'y a pas véritablement, à mon avis, de vision du monde dans le macronisme, qui, encore une fois, ne peut pas en avoir parce qu'il est, j'allais dire ontologiquement, pardon pour cette cuisserie, un opportunisme. Et donc on se retrouve...
Les macronistes, eux, disent pragmatisme.
Mais bien sûr, j'entendais Stanislas Guérini, vendredi, je crois, qui disait, fondamentalement, ce que nous voulons, c'est répondre aux demandes du pays. Moi, je crois que c'est exactement une déclaration de faillite. C'est-à-dire que quand la politique ne consiste plus qu'à regarder où sont les demandes pour y répondre, alors on n'est plus que dans de la politicaillerie. Et donc, il est normal qu'il y ait des jeux politiques, il est normal qu'on essaie de gagner les élections, il est normal qu'on tienne compte de ce qui s'est passé. Et typiquement, les 20% d'électeurs de Macron qui sont passés au moment des européennes sur un vote Europe Écologie Les Verts invitent Macron à verdir son discours, entre guillemets. Mais on ne peut pas faire une politique avec ça. C'est-à-dire que si on ne fait que répondre à la demande, alors, à mon avis, on trahit fondamentalement le mandat qui est le mandat de quelqu'un qui prétend être quelque chose d'autre qu'un politicard, c'est-à-dire un homme d'État, qui doit venir avec une offre et pas seulement une capacité à répondre aux demandes. Et quand on dit on est là pour répondre aux demandes, c'est ce qui explique qu'on soit équilibré, qu'il y en ait un peu pour ici, un peu pour là. À mon avis, on explique dans le fond la faillite de la politique, la faillite de la considération dans laquelle on tenait la politique, parce que, de fait, quelqu'un qui a une sorte de vision, qui a une ambition pour ce pays, autrement que obtenir tel avantage ici ou ne pas avoir tel inconvénient là, se trouve orphelin quand il n'y a pas une offre solide. Et fondamentalement, moi, c'est ce que je reproche depuis le début au macronisme, qui est extrêmement habile, qui est extrêmement réussi du point de vue de la capacité à prendre le pouvoir, à l'exercer, à sentir le vent, mais qui est, à mon avis, l'incarnation de la faillite de la politique en tant que la politique consiste à offrir une vision du monde qui s'appuie sur des convictions et qui se traduit par de l'action résolue. Et moi, j'ai beaucoup aimé le titre d'un article qui était publié, je crois, vendredi par Éric Le Boucher dans Les Échos, qui était « Quand le sac en plastique remplace la compétitivité ». Voilà, on en est là. Voilà.
Christine Ockrent.
Oui, mais alors, poursuivre notre amie Manière, quand diable est-ce que cette merveilleuse définition de la vraie politique, avec une vraie vision du monde, un vrai projet, etc., quand est-ce que cela a été incarné, ou plutôt depuis quand est-ce que ce ne l'est plus? Et comment expliquer l'état du pays, si véritablement, jusqu'à Macron, c'était ça la politique?
Ah non, ça fait longtemps, je suis d'accord. Bon, ça fait depuis 88
donc,
à peu près.
On peut considérer que la demande, comme dit Philippe, n'est pas une approche suffisamment noble. Moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, même avec ce discours, il faut bien dire, tellement dépourvu d'éloquence que c'en était franchement pénible, parce qu'on aime les mots et qu'on aime l'emphase, etc. Néanmoins, cela répond, me semble-t-il, et c'est la force de Macron, qui réalise le rêve de Valéry Giscard d'Estaing, c'est-à-dire d'avoir un centre qui mord, comme le disait Juppé, qui prend les deux bouts de l'omelette, et qui, au fond, réalise aussi ce que les Français ont toujours adoré dans la Ve République, qui est une forme de cohabitation. Et c'est ce que l'on a, d'une certaine manière. Alors, on peut trouver que le vocabulaire est plat, que les mesures, oui, il y a un peu de ceci, un peu de cela, et puis surtout, on va voir comment ces réformes annoncées et engagées vont évoluer, et elles sont d'autant plus difficiles qu'elles n'ont pas été entreprises par ce fameux camp de la droite ou ce fameux camp de la gauche qui était censé avoir une vision, un discours, etc. Donc oui, la réforme des retraites, ça va être très difficile. L'assurance chômage, ça va être très difficile. Et pourquoi ? Parce que ça n'a pas été fait avant.
Alors vous citez l'omelette giscardienne, Thierry Pech citait l'UDF, voilà en parfaite cohérence historique en tout cas tous les deux. Est-ce que nécessairement ce centrisme au pouvoir génère une déception? Et ça repose la question de savoir si ce programme annoncé de l'acte 2 va nécessairement s'avérer décevant ou pas. Si l'on reprend les sujets dans l'ordre, est-ce que sur le plan institutionnel par exemple, Thierry Pech, les annonces faites seront au niveau de ce besoin qu'on a senti de faire respirer la démocratie tout au long de cet hiver? Est-ce que sur l'écologie, il faut parler une nouvelle fois de macronisme des petits pas, et on pourrait citer bien d'autres sujets encore, et notamment celui des finances publiques que nous abordions tout à l'heure.
Alors, sur les institutions, le discours de politique générale d'Edouard Philippe n'était pas clair, puisqu'il disait, voilà, on va reprendre le film où on l'a laissé, c'est-à-dire l'affaire
Benalla. En plus, les deux discours, parce qu'il n'était pas semblable.
Et celui du Sénat. Mais celui du Sénat était structurellement compliqué.
Il était fait pour le Sénat.
Et d'ailleurs, adapté au bicamérisme.
Il disait, d'ailleurs, sur l'écologie au Sénat, des choses assez contrastées par rapport à ce qu'il avait dit la veille à l'Assemblée nationale, puisqu'il dit au Sénat, je ne crois pas à l'écologie du grand soir, alors qu'il avait dit la veille à l'Assemblée nationale que désormais, l'écologie, c'était aussi important que la sécurité, l'emploi, et la guerre et la paix, quoi. On voit là l'opportunisme, non pas du macronisme, mais d'Edouard Philippe, ça, il n'y a pas aucun doute là-dessus.
Heureusement, il y a des points communs, quand même.
Sur la réforme constitutionnelle, ce qui se dessine, ce que j'ai compris du discours d'Edouard Philippe, c'est qu'on allait attendre les élections cantonales pour connaître la composition du prochain Sénat, pour savoir si on aurait les moyens, au fond, de faire une réforme constitutionnelle dans laquelle il y a une loi organique, mais il y a aussi une réforme de la Constitution. Donc on a besoin soit des 3/5 des voix au Parlement réunis en congrès à Versailles, soit d'un référendum, mais on n'imagine pas le président de la République faire un référendum sur ces questions. Donc ça passera par la voie du congrès. Donc cette réforme constitutionnelle, il y a un gros point d'interrogation sur elle. Alors est-ce que ça va décevoir, c'est votre question Émilie, les attentes de transformation institutionnelle qui avaient pu s'exprimer dans le grand débat? Je crois pas, parce qu'elles se portaient pas là-dessus, les attentes. En réalité, les demandes qui se sont exprimées dans le grand débat, c'était pas tellement plus de proportionnel comme moi je le souhaite, c'était pas tellement moins de députés, qui est une réforme qui est très consensuelle, mais j'ai jamais très bien compris pourquoi. C'était le RIC éventuellement, oui. C'était plus de participation.
Sachant que de ce point de vue-là, cette semaine, on vit une première sur le plan institutionnel avec nouvelle plateforme.
Et donc la réponse à l'attente institutionnelle, elle est beaucoup plus du côté de la Convention citoyenne sur le climat et la transition écologique. Elle est beaucoup plus attendue là. Que dans la réforme constitutionnelle.
Oui, ou ce qui se passe, je le disais cette semaine, autour de la problématique des aéroports de Paris et de cette...
Ouais. Je voudrais revenir un instant sur opportunisme ou pragmatisme. Moi, j'ai un autre mot qui, je crois, est plus adapté, si je peux me permettre, qui est celui de syncrétisme. Je pense que le macronisme est un syncrétisme.
C'est
très différent, parce que ça consiste pas à prendre un peu de ceci et un peu de cela et à faire un collage. Bon. Ça consiste à essayer de faire vivre ensemble des contradictions. D'un côté, vous êtes pour l'écologie, donc vous êtes contre le glyphosate. Mais de l'autre, vous avez une partie de votre majorité qui est assez pro-business et qui, elle, regarde les questions de compétitivité, de rendement agricole, etc. Il va dire non, il faut maintenir le glyphosate quelques années. Et donc, on vit avec ces contradictions qui sont pas simples, qui sont celles qui structurent la société française et ses élites aujourd'hui. Et sur tous les sujets qu'on a évoqués, le syncrétisme macronien consiste à essayer de faire vivre ensemble des gens qui sont pas d'accord. Voilà. Et combien de temps ça peut tenir? Comment on fait? À un moment donné, il faut surmonter ces contradictions, il faut choisir d'une certaine façon. Et je pense que sur l'écologie, toute l'ambiguïté du gouvernement est là. C'est qu'en fait, il est tiraillé par des postulations contradictoires qui correspondent à des morceaux de l'électorat, à des morceaux de la vie politique française qui sont très différents. Alors qui se repeignent tous un petit peu en vert, mais qui en réalité ont un niveau de conviction en la matière qui est très variable et même un niveau de conception qui est très différent entre l'écologie localiste de la droite identitaire, la deep écologie quasiment antidémocratique des radicalités, on pourrait citer encore d'autres exemples. Il y a bien sûr des différences de ton, de nuances qui sont importantes. Donc, je crois que c'est un syncrétisme et c'est ça qui est compliqué.
Ce qui compte à la fin des fins, et en tout cas à la fin d'un quinquennat, Philippe Manière, ce sont les résultats. Alors en matière d'écologie notamment, mais notamment aussi sur cette question importante de l'économie, de l'emploi, est-ce que vous avez trouvé en effet que c'était à la hauteur cet acte 2 du gouvernement ?
Non, pour la raison précisément que vient d'Ekateri. Après, on va pas se battre sur les mots. Allons-y pour syncrétisme. Enfin, étymologiquement, syncrétisme, ça consiste quand même aussi à faire une omelette. Hein. C'est on mélange quand même. On prend un bout et un autre. Bon, mais
c'est pas ce qu'il y a de plus mauvais.
Non, ça peut être très bon. Mais enfin, faut mettre un peu de c'est bien de relever, de mettre un peu de champignons et puis de passer à
Caroline
que ça.
Brouet vous invitera dans les bonnes
choses.
Voilà, faisons
la prochaine ça. Fois. Non, si vous voulez, l'idée que c'est bien d'être au centre, d'être nuancé, de tout écouter, d'avoir le souci de tout le monde, enfin, qui serait contre? Moi aussi, je suis contre le cancer, pour le beau temps, radicalement contre la guerre. Si vous voulez, c'est facile tout ça. C'est charmant, mais ça n'a aucun intérêt. Le problème, c'est que précisément, nous avons des problèmes spécifiques qui ne peuvent pas être traités par le syncrétisme. Moi, je trouve qu'il y a dans tout ça une double trahison. D'abord, il y a une forme de trahison de la raison. On parlait du glyphosate, c'était pas mon intention d'en parler, mais puisqu'on en parle... Moi, c'est un sujet que je regarde de très très près, pas du tout d'ailleurs pour des raisons professionnelles, je vous rassure, je suis pas conflicté, j'en parle en toute liberté, mais je trouve ça absolument fascinant parce qu'il y a
un hiatus très considérable entre ce que dit la science et ce que pense l'opinion dans son immense majorité. Maintenant, pardon, d'un point de vue opérationnel. Vous êtes le Parlement, vous êtes l'exécutif, on vous met ce dossier devant les yeux. Si c'est mauvais, si c'est dangereux, faut l'interdire tout de suite. Faut pas dire on va en sortir parce que c'est irresponsable si c'est vraiment dangereux. Moi, je crois pas que ce le soit, mais c'est une autre question. Si en revanche ça ne l'est pas, bah il y a pas de raison de dire on va en sortir un peu plus tard parce qu'il y a beaucoup de gens qui le demandent. Donc pendant longtemps, on a quand même eu des hommes politiques qui naturellement étaient sensibles à l'opinion, bien sûr, devaient tenir compte de ce que pensaient les uns et les autres, même si c'était parfois mal fondé, mais qui tout de même se sentaient un peu tenus par l'analyse rationnelle. Là, pas du tout. Enfin, il y a personne dans ce gouvernement qui dit on a fait une analyse rationnelle sur le glyphosate, il est mauvais donc on l'interdit, ou il est bon, ou en tout cas il n'a pas de danger et on l'autorise. On dit on va faire quelque chose qui va nous mettre à la tête de l'Europe pour lutter contre quelque chose dont on ne sait pas bien s'il est mauvais. D'ailleurs, on n'en parle même pas de la nocivité. C'est voilà. Donc il y a ce problème fondamental déjà de trahison, à mon avis, de la raison. Je prends l'exemple du glyphosate parce que je sais que ça va nous faire des amis. Vous aurez du courrier des auditeurs. Je le prends aussi parce qu'il me semble symbolique de ce renoncement à l'analyse rationnelle et à la conclusion assumée d'une analyse rationnelle.
L'analyse rationnelle, il y a quand même un certain nombre de rapports sur lesquels se font
ces analyses. Non, il n'y en a pas. Toutes les agences de santé du monde ont fait l'analyse que le glyphosate ne présentait aucun danger. Les seules choses qui vont contre le glyphosate sont les condamnations très sévères infligées par des jurys populaires aux États-Unis où, comme on le sait, la justice a un certain nombre d'inconvénients, en particulier le fait que des jurys populaires...
Il y a un certain nombre d'investigations, par exemple, citer le travail de Marie-Monique Robin qui était assez éloquent.
Ce que j'ai vu, les travaux d'investigation, en particulier à la télévision, que j'ai vu sur le sujet, sont spécialement navrants d'un point de vue intellectuel et moral. Mais fermons la parenthèse, en tout cas sur ce sujet-là, il me semble qu'il y a une trahison en disant on fait mais on fait pas, le syncrétisme ne marche pas. De la même manière, sur les sujets fondamentaux du pays, puisque vous m'invitiez à aborder la question de l'emploi et de la compétitivité. Enfin, ce pays est à peu près le seul qui n'ait pas fait ce qu'ont fait la plupart de ses comparables, des pays comparables aux nôtres, qui ont connu la même impasse identitaire et budgétaire et économique au fil des années passées, c'est-à-dire remettre au carré le fonctionnement de l'administration, la répartition des rôles entre la sphère publique et la sphère marchande. Enfin, si vous voulez, il y a un certain nombre de choses dont on sait absolument qu'il faut les faire. Quand vous les différez...
Alors pourquoi
ça
n'a pas été fait par tous ces...
Non mais Christine, je ne suis pas en train de dire que tout ce qui était... Ça fait deux fois que vous me dites ça. Je ne dis pas que tout ce qui était avant Macron était bon. J'ai pas dit que tout ce qui était fait avant Macron était bon. Je dis qu'il ne faut pas me faire croire que ce syncrétisme est susceptible de régler les problèmes qui, de fait, je vous donne le point, n'ont pas été réglés par les précédents, mais qui, précisément pour cette raison, sont encore plus aigus et dont le règlement est d'autant plus nécessaire. Donc, vous voyez, par exemple, sur la réduction du nombre d'emplois publics. Macron, à l'élection, était venu avec une offre très limitée par rapport à ce que plaidaient, par exemple, ses concurrents de droite. Il n'a rien fait à ce stade sur ce sujet, ou très marginalement, et il n'en parle plus au titre du syncrétisme. Donc, si vous voulez,
ça pose la question des faits de savoir si, à vos yeux, le macronisme est toujours un réformisme. On sait par ailleurs qu'il y a de grandes réformes devant lui. Il y a celle des retraites,
il y a
celle de l'assurance chômage.
Mais vous supputez très généreusement pour lui que j'ai
présenté comme un réformisme, notamment sur le marché du travail et les réformes.
Je pense que c'est un immobilisme nouveau, c'est-à-dire que pour moi, dans la pratique, à peu de choses près, parce que je ne veux pas être injuste, il y a eu sur la fiscalité. Un peu, il y a eu sur l'emploi très peu, mais un peu, il y a eu quand même quelques petites choses importantes qui ont été faites. Mais sur le fond, les ordonnances travail, je pense qu'elles sont extrêmement surfaites et que ça ne change pas grand-chose à la vie des employeurs, donc à la capacité économique du pays. Mais je veux bien admettre qu'il y a eu un certain nombre de choses de faites, mais par rapport aux besoins très considérables du pays, c'est précisément ce que je veux dire. Le syncrétisme paralyse complètement. Vous ne pouvez pas vouloir le bien du monde entier et faire les réformes qui sont requises par la situation objective du pays, pour la raison très simple qu'elles ne s'accommodent pas de l'équilibre. Il faut faire des choses activement.
Ce qui est étonnant, Thierry Pech, je vous donne la parole juste après à Christine Ockrent, c'est qu'en effet, le macronisme s'est toujours présenté comme ce que vous appelez, vous, un syncrétisme. Alors, est-ce que ce centrisme, on va dire, puisque c'est un terme qui semblait vous mettre d'accord, pouvait être, d'un point de vue vraiment intrinsèque, réformiste?
Oui, je dis non parce que il y avait ce qu'on a appelé un peu pompeusement au tout début du macronisme la théorie du dépassement, c'est-à-dire qu'il y avait une troisième voie à la française possible. Et quand je dis que c'est devenu un syncrétisme, je signale par là que cette troisième voie est condamnée aujourd'hui et qu'aujourd'hui ce gouvernement s'est condamné lui-même à faire une balance entre des gens qui ne pensent pas tout à fait la même chose et à les faire vivre ensemble parce que au fond, leurs différences ne sont pas grand-chose par rapport à ce qui les sépare des autres formations politiques qui se sont radicalisées pour certaines et ou qui sont très éloignées pour d'autres. Alors, est-ce que c'est un réformisme ? Le terme de réformisme a été tellement galvaudé, l'idée de réforme a été tellement mise à toutes les sauces que le mot ne veut plus rien dire. À l'origine, le réformisme, c'est le choix de sociodémocrates qui renoncent à la révolution. On n'est plus du tout là-dedans. François Chérec, dont je salue la mémoire au passage, avait écrit très joliment dans un livre « Réformer, c'est redonner forme à la société ». Est-ce que les réformes qui sont entreprises veulent redonner forme à la société ? Je suis pas sûr. Si la question que vous me posez, c'est est-ce qu'ils font des choses ? Est-ce qu'ils réforment en profondeur le pays ? Je me démarquerai de ce que vient de dire Philippe, où en gros il dit ils font pas grand-chose, et c'est très en arrière de la main par rapport à ce qu'il faudrait faire.
Question est assez claire, est-ce qu'à la fin de ce quinquennat, de l'emploi, des finances publiques, des retraites, de l'assurance chômage, aura évolué ou pas ?
Je serais beaucoup moins sévère que Philippe. Je pense que des choses importantes ont été faites. Je pense que les ordonnances travail, c'est pas du tout décoratif. D'ailleurs, c'est pas forcément fini. Je pense que la réforme des retraites, la réforme systémique des retraites est un grand pas structurel vers plus d'équité, plus de justice et en même temps une forme de rationalité économique. Donc je n'aurais pas cette sévérité qu'a Philippe. Cela dit, je voudrais attirer l'attention sur le fait que ceux qui s'opposent au macronisme, qu'il soit un syncrétisme ou autre chose, devraient bien écouter Philippe. Parce que c'est comme ça qu'il faudrait s'y opposer. Et pas en faisant des crises de nerfs identitaires. À gauche, en disant « toujours plus à gauche, voilà, si on a perdu, c'est parce qu'on était trop complexé, soyons nous-mêmes, et on finit à 7%. » Ou à droite, où on finit à 8,5%, en disant à peu près la même chose à droite. Bon. Non, si je n'ai pas de conseils à donner aux opposants à Emmanuel Macron, mais s'ils cherchent des idées,
davantage le reproche de la tiédeur que du néolibéralisme, par exemple.
S'ils cherchent des idées, je leur conseillerais de situer leurs critiques sur le terrain de l'efficacité, de la profondeur des réformes et de mener la bataille au centre, pas de la mener sur leur bord où ils trouveront toujours plus colorés et plus épicés qu'eux.
Christine Ockrent, est-ce qu'alors qu'on aborde cet acte 2 du macronisme, il est aussi possible désormais de mesurer, de souligner ce qu'on pourrait appeler les impensés du macronisme ?
L'impensé majeur, et qui pourtant faisait partie, me semble-t-il, de l'acte 1, ce sont effectivement les finances publiques. Et là, je rejoins la brève intervention de Philippe Lanière. Là, on n'en parle plus. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fuite en avant, on oublie la règle des 3%, qui, il faut quand même toujours le rappeler, avait été imposée par la France à ses partenaires. Donc ça, on n'en parle plus du tout. On comprend pourquoi. Il est évident qu'il a fallu lâcher du lest au moment au plus fort de la crise des Gilets jaunes, et on voit bien là aussi qu'il faut mettre du beurre dans les épinards. Moi, il y a une chose qui m'a frappée. Un sondage commandé par France Info et Le Figaro prouve que, je crois, 46% des Français n'ont pas du tout entendu parler du discours du Premier ministre. Et donc là, ça donne quand même...
C'est un score inespéré par rapport à ce que j'imaginais. Hein.
Oui, mais c'est quand même vertigineux par rapport à la crise des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on revient toujours à cette profondeur de cette faille entre ceux qui se sentent concernés, ceux qui pensent connaître, ceux qui pensent savoir, ceux auxquels on parle, auxquels nous autres médias pensons nous adresser, et quand même une vaste poche de l'opinion qui reste extraordinairement isolée par rapport à tout cela, et c'est la source d'infiniment de malentendus et d'infiniment d'espace pour le complotisme, les fausses infos,
Est-ce que c'est le fameux distinguo hexagonal entre les sachants et les subissants souligné par le président
de la vocabulaire,
République.
Personnellement, me fait grincer des dents.
C'est celui du président Thierry Pêche, puisqu'on parlait des impensés du macronisme. Il a aussi beaucoup été souligné cette semaine à quel point cette majorité ne s'adressait pas suffisamment au malaise de la fonction publique, qu'on voit particulièrement à l'œuvre ces derniers jours, notamment dans le domaine hospitalier, malgré d'ailleurs les déplacements sur le terrain de quelqu'un qui connaît bien l'hôpital et qui est Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Est-ce que dans ces impensés du macronisme, il y a aussi ce qu'on fait de cette fonction publique française ?
Ben oui, mais ça, vous savez, c'est compliqué parce que ce reproche, on pourrait le faire à quasiment toutes les formations politiques qui avaient l'ambition et la possibilité de gouverner depuis 20 ans. Tout le monde est venu devant les électeurs en disant on va être rigoureux, on va éventuellement supprimer des postes de fonctionnaires. Personne n'a jamais dit où ni comment. Et d'une certaine façon, moi j'avais posé la question pendant la campagne plusieurs fois publiquement à tous ceux qui disaient... Alors c'était la foire, hein, 500 000 chez Fillon, 150 000, 120 000 chez Macron, je ne sais plus combien, bon bref. Et c'était le concours Lépine de la suppression des fonctionnaires. Et j'en disais, attendez, vous dites ça, mais en même temps, vous nous dites, il faut plus de policiers, il faut pas moins de profs, il faut à l'hôpital des postes au lit du
et
patient.
Et moins d'impôts.
Et moins d'impôts. À la fin, c'est pas possible de boucler votre discours. Vous ne pouvez pas le boucler. Et d'une certaine façon... J'aurais préféré qu'ils disent, très sincèrement, eh bien non, on ne va pas supprimer autant de postes de fonctionnaires parce que voilà nos priorités. Et si vous partagez nos priorités, on a besoin de cette fonction publique.
On a le sentiment d'ailleurs d'une espèce d'impuissance du macronisme. Lorsqu'on voit Jean-Michel Blanquer pointer du doigt, qu'il sait que l'important, par exemple, c'est la question du pouvoir d'achat des professeurs et qu'en même temps, on ne voit rien arriver sur ce plan-là.
Alors, quand on regarde le détail, la décomposition des finances publiques, le problème, c'est pas tellement l'État. Or, les gens qui se présentent à la magistrature suprême, ils vont gouverner l'État. Ils vont pas gouverner le bloc communal. Ils vont pas gouverner les régions. Ils vont pas gouverner les départements. Bon. Ils vont pas gouverner l'hôpital directement. Et l'État, je suis désolé, quand on le compare aux autres, l'État français, quand on le compare aux autres États européens, il n'est pas excessivement dispendieux. Et rapporté à la population qu'il est censé administrer, il n'est pas obèse. Du tout. Donc, le problème, et non, mais on peut trouver un peu de gras ici ou là.
Mais obèse sur ses flancs.
Donc le sujet, c'est ça. Et l'autre sujet, puisqu'on parlait, on est venu à ce sujet par les finances publiques. On aurait pu y venir par d'autres biais. Après tout, la fonction publique n'a pas vocation qu'à n'est pas qu'un coût. Elle est aussi un service. Elle est même d'abord un service. Mais sur la règle des 3% qui a été évoquée par Christine et qui a été présentée comme le grand impensé du macronisme par Philippe, quand on a mis en place cette règle, les conditions macroéconomiques, à la fois le niveau de l'inflation, les perspectives de croissance, les taux auxquels on pouvait s'endetter en Europe, n'avaient rien à voir avec la situation actuelle. Je vous rappelle, on avait des prévisions de croissance à 3% en longue période. Elles sont de 1,5%. On avait des taux d'emprunt à 5%. Ils sont négatifs aujourd'hui pour l'Allemagne, la France et même pour un pays comme l'Espagne. Donc, qu'on soit un peu moins arc-bouté sur cette doctrine des 3%, aujourd'hui, ne me paraît pas tellement être un problème. Je dirais même que cette doctrine des 3%, pour ceux qui ont des finances publiques saines, aujourd'hui, elle est quasiment laxiste.
Le mot de conclusion, Philippe Magnin, sur cette première partie de l'esprit public, non, sur ces impensées du macronisme,
sur les impensées du macronisme
et sur
les finances publiques et sur l'État. Oui, c'est vrai, l'État est moins vicieux, il est relativement, tout est relatif, plus vertueux que les collectivités locales. Ou la fonction publique hospitalière, par exemple, où il y a des dérives qui sont considérables pour des raisons qu'on peut comprendre. Là où il est responsable, malgré tout, des dérives qui se déroulent, comme le disait très justement Christine, sur ses flancs, c'est que typiquement, la rémunération des agents des collectivités publiques, elle est décidée, en gros, par l'État. Je suis expéditif, mais en gros, c'est ça. La réglementation qui suppose qu'il y a des gens pour mettre en place la réglementation localement dans les hôpitaux, parler avec un directeur d'hôpital, parler avec un responsable d'administration locale, tous les textes qui tombent tous les jours de Paris, ça fait quoi? Ça fait des jobs de, maintenant on appelle ça de compliance, de conformité. Et si vous voulez, effectivement, vous avez de moins en moins de fonctionnaires au lit du malade en proportion du nombre de fonctionnaires hospitaliers, parce que vous avez de plus en plus de fonctionnaires hospitaliers qui sont là pour adapter sans arrêt le fonctionnement de l'organisation à des pressions réglementaires qui sont d'ailleurs de plus en plus contradictoires, en tout cas de plus en plus nombreuses, et qui, elles, viennent du Parlement et de l'exécutif. Donc oui, le mal est très souvent dans les gens, ce qui d'ailleurs me fait douter de l'opportunité de faire plus de décentralisation au passage. Moi, je suis fondamentalement girondin, mais comment je vois comment marche la déréglementation, je suis devenu malheureusement jacobin par défaut. C'est-à-dire, je ne crois plus qu'on puisse faire confiance aux collectivités locales pour être raisonnable. Donc, je deviens malheureusement jacobin. Toujours est-il qu'une grande partie de la dépense locale ou hospitalière vient de la pression réglementaire qui, elle, est née de l'exécutif, de l'État central en tout cas. Donc, on ne peut pas complètement exonérer l'État de ses responsabilités sur la dérive de la dépense publique, je crois.
Merci. Allez, à présent, on va quitter la France, changer d'échelle, direction là où s'invente sans doute le monde de demain, l'Asie, la Chine et Hong Kong, qui se rebellent pour ne pas devenir une ville chinoise comme les autres.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
drôle d'impression, peu de temps après avoir commémoré le triste anniversaire de la répression des étudiants de Tiananmen, que de voir ces manifestations massives dans les rues d'Hong Kong. Hong Kong dans la rue pour s'opposer à un projet de loi visant à faciliter les extraditions vers la Chine continentale. En cause, une loi qui permettra de faire juger par la justice chinoise, bien connue pour sa partialité potentiellement, tous ceux que Pékin pouvait considérer comme hostiles au régime. Effrayante perspective pour des Hongkongais qui avaient en mémoire des cas d'enlèvement de libraires ou d'hommes d'affaires, retrouvés ensuite en Chine où ils avaient été jugés et condamnés dans des affaires montées à l'évidence de toutes pièces par le régime. Le report de cette loi sur les extraditions en fin de semaine n'avait pas calmé le mouvement qui traduisait en fait une inquiétude immense qu'on ne pouvait comprendre qu'en faisant un peu d'histoire. 1997 avait été l'année de la rétrocession de Hong Kong à la Chine par la Grande-Bretagne, avec un statut d'autonomie pour 50 ans, résumé par la fameuse formule « un pays, deux systèmes ». Hong Kong était donc depuis au sein de la Chine, mais disposant jusqu'en 2047 de son parlement, d'une opposition politique, d'une presse théoriquement libre, de la liberté de manifester, comme un compte à rebours avant la fin des libertés annoncées. Les Hongkongais, qui avaient pourtant favorablement accueilli la rétrocession en 1997, car à l'époque, la Chine, en pleine croissance, laissait espérer un assouplissement de son système. Sauf que d'année en année, la Chine semblait arrimer lentement mais sûrement Hong Kong au reste du pays, et donc de sa dictature, par un pont, par une gare flambant neuve placée sous l'autorité de la police chinoise, ce qui était bien sûr une manière de contrôler entrée et sortie. Alors on allait suivre de près ce mouvement qui traduisait le désir fou d'une jeune génération qui ne se sentait ni anglaise ni chinoise mais spécifiquement hongkongaise et qui voulait démontrer que le rouleau compresseur pékinois qu'on voyait à l'œuvre partout, sur tous les continents, dans tous les domaines, n'était pas inexorable, qu'on pouvait le freiner à défaut de savoir l'arrêter.
Pendant la colonisation, on ne se sentait ni anglais ni chinois. Mais après la rétrocession, ils ont tenté de fabriquer une sorte d'identité hybride sino-hongkongaise. Mais ils ont échoué car les deux cultures ne sont pas compatibles. Je ne suis pas anglais. Je ne suis pas chinois. Je suis hongkongais.
Voilà un court extrait d'un documentaire d'Arte qui date de 2017 d'Alain Lekovitz, Hong Kong, génération, rétrocession, et ce jeune député que vous venez d'entendre, favorable à l'indépendance, qui avait été élu en 2016, mais destitué quelques mois plus tard pour avoir porté une bannière « Hong Kong n'est pas la Chine » pendant sa prestation de serment. Christine Ockrent, qu'est-ce que vous regardez avec attention dans ce mouvement hongkongais et qu'est-ce qu'il nous dit d'un modèle chinois un peu répulsif ?
Hong Kong a longtemps été la ville-monde, rivale de Singapour bien sûr, mais plus exemplaire et plus spectaculaire et plus mystérieuse à cause de ce mélange que vous venez de décrire, ni anglaise, ni chinoise, hongkongaise. C'est une exception qui est maintenant menacée, c'est une ville-monde en perte de vitesse. J'ai retrouvé quelques chiffres. En 97, donc au moment de la restitution à la Chine, qui était une cérémonie extraordinaire, j'avais la chance d'être sur place, il pleuvait des cordes, parce que vous aviez la pompe britannique, les uniformes blancs, enfin c'est ce sens de la mise en scène, de la majesté de l'Empire. Et puis vous aviez les Chinois qui étaient là et qui faisaient leur business et qui évidemment prenaient véritablement le pouvoir. À ce moment-là, Hong Kong représentait 25% de l'économie chinoise. Aujourd'hui, c'est 3%. Et donc, il y a ce phénomène de ralentissement. Et il y a aussi, comme vous l'avez très bien dit dans votre introduction, ce phénomène de génération. 22 ans depuis la rétrocession, c'est plus qu'une génération. Et on se souvient du mouvement des parapluies, c'était en 2014, ça avait duré plus de 2 mois. Cette tranche d'âge voulait un vrai suffrage universel. Maintenant, hélas, il n'en est pas question. On va voir ce qui se passe aujourd'hui, dimanche, parce qu'une manifestation est en cours.
Il faut espérer qu'il n'y ait pas trop de casse et surtout pas de mort. Mais il est évident que pour le pouvoir chinois, Xi Jinping, quand on a encore en tête le vocabulaire utilisé par le ministre de la Défense chinois à Singapour il y a une quinzaine de jours, aux rencontres de Shangri-La, où il s'est vraiment pris de bec avec son homologue américain, avec une violence. À propos de quoi ? Pas à propos de Hong Kong, tellement la Chine continentale estime évidemment que Hong Kong est entièrement chinoise. À propos de Taïwan. Et donc, s'il y a des gens aujourd'hui véritablement angoissés, ce sont bien les Taïwanais, parce que ce qui se passe, ce qui est en jeu aujourd'hui à Hong Kong, va au-delà, encore une fois, de cette
peut-être en présence que Pékin a proposé à Taïwan, séparé de la Chine depuis 1949, de regagner la mère patrie avec ce même statut d'autonomie.
Oui, et qui reste évidemment l'ambition de la Chine contestée par la présence maritime d'un certain nombre de grandes puissances, les Américains, mais aussi la France, jusqu'à un certain point.
Alors, il est étonnant, Thierry Pêche, de regarder ces manifestations hongkongaises quelques jours à peine après les commémorations de Tiananmen, qui avaient donné lieu à beaucoup d'émissions sur le sujet, où on expliquait que finalement, si les Chinois avaient su rayer de leur mémoire Tiananmen, c'est parce qu'il y avait cette espèce de contrat social que passait Xi Jinping avec le peuple chinois, avec le fameux « enrichissez-vous, je vous donne la prospérité, vous me donnez vos libertés ». Est-ce que ce contrat-là, finalement, connaît ses limites aujourd'hui ?
C'est nous qui connaissons les nôtres, en réalité. En 2019, on va fêter le 30e anniversaire. On célèbre tristement le 30e anniversaire de Tiananmen, mais aussi celui de la chute du mur. Si on se remet dans l'ambiance qui était... j'avais 21 ans, j'étais jeune, et je trouvais que le monde était plutôt sympathique. Je pensais que les démocrates libéraux partisans d'un gouvernement représentatif n'avaient finalement plus d'adversaires.
Et la fin de l'histoire. Vous découvriez la fin de l'histoire.
Et l'hypothèse qu'on faisait sur la Chine à l'époque, c'est que l'intégration dans la mondialisation et les échanges auraient raison de ce qui restait du communisme. Et encore en 1997, lorsque Deng Xiaoping a cette formule « un pays, deux systèmes » et qu'il scelle un accord avec le Royaume-Uni pour 50 ans, puisque le régime actuel de Hong Kong est censé s'interrompre en 2047, s'il se projette à 50 ans comme ça aussi facilement, c'est parce qu'il pense, et je crois que Deng Xiaoping et les Shanghaïens qui dirigeaient la Chine à l'époque le pensaient sincèrement. Ils pensaient qu'en 2047, il n'y aurait plus de différence entre la Chine et Hong Kong. Entre, le régime libéral de Hong Kong, qui n'était pas franchement complètement démocratique d'ailleurs, et puis le régime de Pékin. 30 ans plus tard, ce qu'on constate, c'est que la mondialisation et les échanges n'ont pas du tout eu raison de ce qui restait de dirigisme chinois et n'ont pas poussé la Chine à se démocratiser, à se libéraliser autant qu'on l'aurait souhaité. On découvre même, et c'est pour ça que je réponds à votre question en disant que c'est nos propres limites qu'on découvre, c'est que notre idée selon laquelle, parce que nous avions lu Amartya Sen pieusement, en faisant des gloses savantes dans les marges, nous pensions que la prospérité allait main dans la main avec la démocratie, qu'on ne pouvait pas avoir l'une sans l'autre. Eh bien, la Chine nous a montré, en 30 ans, qu'on pouvait faire sortir des centaines de millions de gens de la pauvreté et de la misère sans voter une seule fois, sans passer par les urnes. Voilà ce qu'a réalisé la Chine. Elle a réalisé une démonstration cuisante pour les Occidentaux que la démocratie libérale et son gouvernement représentatif ne sont pas un optimum d'efficacité économique. Peut-être un optimum de légitimité, encore que les protestations populistes de l'intérieur même du monde démocrate et libéral permettent d'en douter. En tout cas, ce n'est pas un optimum d'efficacité. Et Hong Kong se retrouve aujourd'hui dans cet étau terrible, après avoir fait un pari fou sur la démocratisation et la modernisation de la Chine. Elle se trouve en face d'un géant qui va l'écraser lentement, mais sûrement, d'ici 2047.
C'est même beaucoup plus vite. Est-ce que c'est inexorable, de manière, cet écrasement par le rouleau compresseur chinois de cette espèce de spécificité hongkongaise? Est-ce que la chance d'Hong Kong, ou en tout cas la chance de ce mouvement, la force de ce mouvement, c'est d'avoir le soutien des milieux d'affaires, précisément?
Oui, mais les milieux d'affaires, et c'est toute la force de la Chine, les milieux d'affaires
enfin, ne peuvent pas imaginer un Hong Kong qui fonctionne bien sans les interactions très importantes qui existent entre Hong Kong et la Chine continentale. C'est d'ailleurs exactement la même chose pour Taïwan, puisque, comme le disait très justement Christine, ce qui est en filigrane derrière la crise de Hong Kong, c'est aussi l'avenir de Taïwan. Alors, j'allais dire, dans un sens et dans l'autre, c'est-à-dire que on voit bien que quand Pékin parle d'un pays et du système, il ne faut évidemment pas le croire. On voit bien aussi que si on est taïwanais et qu'on était tenté par oublier un peu les rivalités du passé, rentrer dans une logique sur le thème, bon, après tout, c'est vrai que nous sommes chinois. Quand on voit ce qui se passe à Hong Kong, ça peut éventuellement, guérir quelques tiédeurs. Moi, je pense que c'est, alors, est-ce que c'est inexorable? Je n'en sais rien. On voit bien que le rapport de force aujourd'hui est extrêmement favorable à la Chine. Je pense que la manière dont on regarde ça et la manière dont on réagit, nous occidentaux et nous qui nous disons partisans des libertés et de la démocratie, ce qui au passage, Thierry, est évidemment l'élection, mais qui à mon avis est encore plus important à mes yeux, c'est les libertés publiques, c'est-à-dire le respect le rule of law et la capacité à pouvoir s'exprimer librement, la capacité à ne pas être arrêté sans raison légitime. C'est ça, à mon avis, qui est fondamental dans la démocratie. Et c'est ça, d'ailleurs, qui est principalement menacé à Hong Kong, parce que fondamentalement, c'est ça qui faisait la différence entre Hong Kong et la Chine, plutôt que l'élection. En tout cas, mon sentiment, moi, c'est que nous devons, nous, occidentaux, si nous voulons être crédibles à nos propres yeux et aux yeux du reste du monde, quand nous disons que nous sommes attachés à la démocratie et aux libertés, nous devons ne pas laisser passer ça. Alors, même en étant conscient,
ne pas laisser passer ça, ça veut dire quoi?
Il faut montrer à quel point on soutient les gens qui veulent maintenir, au moins jusqu'en 2047, puisque malheureusement après, il y aura moins de possibilités, le plus longtemps possible et le plus complètement possible, le système qui a été admis par les Chinois. Pas oublier non plus que l'histoire a parfois des revirements, c'est-à-dire, comme on le disait il y a un instant, sous Deng Xiaoping, on peut imaginer qu'il y avait une forme de sincérité. Je ne suis pas certain, mais on peut imaginer que, donnons-lui en tout cas le bénéfice du doute, on pouvait imaginer que Deng Xiaoping ne savait pas si en 2047, après tout, il n'y aurait pas une espèce de convergence naturelle des deux systèmes, qui fait que la question aurait été abolie. Avec Xi Jinping, c'est absolument plus, évidemment, une hypothèse raisonnable. On a affaire à des gens qui sont les ennemis résolus de la démocratie dans toutes ses dimensions, que ce soit l'exercice du droit de vote ou que ce soit les libertés publiques. Mais, comme on l'a vu, il y avait eu Xi après Deng, on peut avoir quelque chose après Xi. Donc, n'enterrons pas les libertés à Hong Kong tant que nous pouvons espérer qu'elles survivent. Ça me semble une obligation morale et également notre intérêt. Parce que si nous nous couchons à chaque fois que le pire régime du monde manifeste son intention de ne pas faire ce qu'il a dit et de piétiner les démocraties ou les quasi-démocraties qui sont à ses portes, alors il ne faudra pas s'étonner que ça tourne mal chez nous. Donc je pense qu'il ne faut pas regarder ça en spectateur navré. Il faut essayer de faire plus. En tout cas, il faut être conscient que nous avons une responsabilité parce que tout simplement en 97, nous étions mis d'accord, même si nous n'étions pas, nous, Français directement concernés, sur une vision du monde et une vision du temps dans le rapprochement des deux systèmes. Ce qui se passe est exactement aux antipodes. C'est attentatoire à nos valeurs. Nous ne devons pas l'accepter en spectateur résigné.
Est-ce que vous pensez en effet que la communauté internationale va regarder ça différemment qu'en ce que Vipaner appelle spectateur navré, Christine Ockrent?
Je souhaiterais ardemment que la communauté internationale, dont on ne sait plus d'ailleurs ce que ça veut bien, dire,
ce que ça signifie,
soit portée par le même élan que notre ami Philippe. Je crains, hélas, qu'il n'en soit rien du tout. Et d'ailleurs, Londres, entièrement occupée par le Brexit et l'ascension de M. Boris Johnson, ne se manifeste guère. J'essaie de joindre, pour mon émission d'hier, Lord Patton, Chris Patton, le dernier gouverneur de Hong Kong. Il est aux abris. Je crois que d'un point de vue chinois, quelles que soient les protestations verbales de nos démocraties éplorées, Xi Jinping, franchement, s'en tape. Et le rouleau compresseur, comme vous dites, continue. Là, il y a eu un report d'examen de ce projet de loi. Pourquoi ce projet de loi ? Qui consiste en fait à pouvoir extrader sur un claquement de doigts les riches chinois, les milieux d'affaires chinois, de Pékin, de Shanghai et de ces mégalopoles qui pullulent maintenant en Chine continentale. Ils viennent à Hong Kong, ils achètent de l'immobilier. Il y a même une dame qui n'y met que ses chaussures, paraît-il, genre 300 paires de chaussures. Pourquoi est-ce qu'ils achètent de l'immobilier à Hong Kong? Pour avoir un passeport, pour pouvoir voyager plus facilement et avoir
un repli. On a vu que de riches hommes d'affaires chinois ont néanmoins été enlevés pour être ramenés dans la mère patrie et disparaissent plus ou moins pour toujours. D'accord. Le but du pouvoir de Pékin, c'est ça, c'est d'atteindre ces gens-là. Les jeunes gens qui manifestent, qui poussent leur sens civique jusqu'à aller ramasser les sacs en plastique, les masques à gaz, ils vont nettoyer la nuit pour
comme
être sûrs.
Comme en Algérie d'ailleurs, c'est des images qui rappelaient.
C'est bouleversant. Mais le pouvoir chinois vise sa propre élite qui va chercher à Hong Kong un repli provisoire et extraordinairement fragile.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette opposition des milieux d'affaires. Est-ce que ça pèse dans la balance ?
Non, enfin encore une fois, le pouvoir de Xi Jinping est un pouvoir absolu. On a vu qu'il va jusqu'à réprimer ces jeunes gens qui se veulent communistes. Dans les universités chinoises, il y a eu, bien en amont des commémorations de Tiananmen, les commémorations en Occident, hein, je vous rassure, pas du tout en Asie. Bien en amont, il y a eu aussi un mouvement de répression au sein des universités chinoises. Contre qui ? Contre ces jeunes gens qui voulaient faire revivre le Parti communiste chinois. Donc, on est quand même, me semble-t-il, dans un univers de pouvoir, un univers mental qui n'a rien à voir. Et il faut le regretter, mais je suis absolument d'accord avec Thierry. Je crois que l'erreur que nous avons faite, cette génération qui avons cru effectivement à la chute du mur, à Tiananmen, que véritablement la démocratie libérale et ses valeurs étaient enfin triomphantes, eh bien, il faut voir que, hélas, elle est en repli partout.
Thierry Pêche.
Je trouve très jolie l'expression de Philippe, spectateur navré. Je ne voudrais pas ressembler à un spectateur navré. Je ne voudrais pas non plus ressembler à un spectateur romantique ou. Pour l'avoir été il y a 30 ans, j'en ai guéri un peu et donc je pourrais
être
un spectateur lucide. Mais quand Philippe dit il faut défendre la rule of law, il faut défendre l'état de droit, je crois qu'il a raison. J'aimerais d'ailleurs sentir le même enthousiasme quand il s'agit de le défendre en Pologne, en Hongrie et ailleurs en Europe.
Si c'est de ma part, j'ai le même enthousiasme
très
sur
bien.
Ces sujets.
C'est très, très bien.
Non, pardon.
C'est très, très
ouais,
bien.
Non, je pas là-dessus. Hein.
Donc, si on veut aller au bout de la lucidité, et il faut toujours essayer d'y aller, et puis après, on voit ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qui est arrivé à la Chine ? La Chine, aujourd'hui, s'accommode du retour des logiques de puissance. Voilà. Après avoir fait un autre pari, mais dans lequel on n'a pas forcément fait notre partie du chemin, nous, occidentaux, au sens nous, américains, parce qu'en gros, c'est l'Amérique qui est responsable de tout ça, je pense, eh bien, elle en a pris son parti, elle sait qu'elle est au seuil d'une guerre commerciale. Elle sait que les échanges ne seront plus ce qu'ils ont été, qu'ils ne seront plus le seul levier de la prospérité et du changement. Et donc, on est au seuil d'une période dangereuse. Quand le président Macron est allé dire, devant l'OIT à Genève, il y a quelques jours, ça peut produire la guerre, tout ça. Je crois qu'il dit quelque chose de sérieux. Et c'est... Je regrette d'être navré, mais tout ça est navrant. Et de fait, je crois que Xi Jinping a pris acte de tout ça.
Le fait est, Philippe Manière, qu'aujourd'hui, il n'y a pas un sujet de géopolitique où l'on ne finit pas par parler de la Chine, qu'il s'agisse de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, de Huawei, de la 5G, du développement de l'Afrique, dont on sait aujourd'hui qu'il passera nécessairement par la Chine, de l'Europe, dont on voit bien qu'elle est déjà déstabilisée quand la Chine rachète les ports d'Athènes, rachète les ports de Gênes. Il n'existe plus de limite à ce rouleau compresseur.
C'est compréhensible qu'on voit la Chine partout, puisque le phénomène géopolitique majeur des 25 dernières années, c'est l'émergence d'un nouveau géant économique et militaire et politique. Donc voilà, ça n'est pas surprenant. Ce qui est un peu plus surprenant, c'est que, je ne sais pas combien d'entre vous étaient dans cette illusion, moi-même j'étais à moitié, on nous a quand même longtemps, beaucoup, vendu l'idée que la Chine était très fière, très sûre d'elle, mais très peu conquérante, très peu impérialiste. Il y avait cette thèse qui était très longtemps dominante, selon laquelle la Chine était très fière de son indépendance, très farouchement...
Qu'elle visait une espèce de puissance économique, une puissance à 360
degrés.
Exactement,
et on voit exactement le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit alors du cyber...
de la puissance cyber dans
oui, à l'intelligence artificielle,
tout ce que ça a d'officiel, c'est la 5G, mais aussi ce que ça peut avoir d'illégal, les attaques, etc., pas signé, déguisé, etc., jusqu'au petit bistrot de l'Afrique de l'Ouest où vous trouvez des financements chinois, les constructions de barrages
et des Chinois
en Éthiopie, très grand nombre maintenant. Donc on n'a pas du tout ce qu'on nous avait dit, c'est-à-dire une Chine qui, quand bien même elle deviendrait puissante, ne serait pas impérialiste. On a une Chine qui est devenue extrêmement puissante et qui est extrêmement impérialiste et qui est extrêmement insensible aux influences démocratiques qu'on attendait, on l'a dit tout à l'heure. Encore une fois, je le constate avec vous, je le regrette. Petite observation pour Thierry, je ne pense pas qu'on puisse racheter, j'allais dire, redimer son romantisme naïf d'il y a 20 ans. En étant résigné maintenant.
Ouais. Je
dis ça gentiment. Et encore une fois, pour la suite, je pense qu'on aura du mal à se regarder dans la glace si on ne fait que dire quel dommage. Si toutefois ils y arrivent un jour, parce que l'histoire n'est pas terminée. La Chine est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire épouvantable, dominante et en train d'écraser tout ce qu'il y a autour, mais il n'est pas certain que ça soit pas un jour différent.
Donc, et d'ailleurs, j'aimerais terminer avec une autre nouvelle du monde dans un pays où la question des libertés publiques n'est pas complètement secondaire, à savoir la Russie. Il s'est passé quelque chose cette semaine en Russie, Christine Ockren, puisque le journaliste russe Ivan Golunov a été libéré après une mobilisation sans précédent. Les autorités russes ont dit disculpé mardi dernier ce journaliste d'investigation qui avait été accusé de trafic de drogue après une vague d'indignation historique. Donc l'indignation reste possible.
Certes, mais dès le lendemain,
certes aussi,
Navalny, donc l'éternel opposant, était à nouveau, sinon arrêté, en tout cas inquiété. Le lendemain, à nouveau, des opposants notoires étaient, sinon arrêtés, du moins inquiété, mais vous avez raison, le simple fait que la grossièreté de l'artifice consistant à planter de la drogue dans le sac à dos de ce malheureux journaliste extrêmement courageux, parce que alors enquêter sur les pompes funèbres en Russie, c'est véritablement
admirable.
C'est vrai, ce moment-là, cette bulle d'indignation donne de l'espoir.
Restons sur cet espoir-là, Thierry Pêche.
Le retour des impérialistes. Il faut savoir comment nous, Européens, on veut se situer dans ce monde-là.
Ce sera un excellent débat pour une prochaine émission. Merci beaucoup à tous les trois, Thierry Pêche, Philippe Manière et Christine Ockren. On se quitte comme toujours avec une musique. Hong Kong, c'est le titre de cette air du groupe Gorillaz, qui parle justement de cette identité hongkongaise dans sa partie britannique. Merci à Marine Beccarelli qui, comme toujours, a préparé avec moi cette émission. À la réalisation aujourd'hui, Alexandra Longuet, et à la technique, Benjamin Vignal. Merci à eux. À suivre, des parfums de sud et d'été chez Caroline Brouet. Les bonnes choses ce dimanche font couler l'huile d'olive. Et à 12h45, Marc Weizmann, lui, dans Signe des Temps, s'intéressera à l'écriture inclusive. Enfin, je vous invite à réserver dès à présent vos places pour notre dernière émission en public de la saison au Théâtre de l'Odéon. Ce sera le dimanche 30 juin prochain. Réservation dès maintenant sur le site de l'Odéon, avec un cadeau de fin d'année après l'émission. Si vous restez avec nous, une masterclass avec le dessinateur Plantu. En attendant, avant ça, on se retrouve dimanche prochain, 11h. Belle semaine à tous, à l'écoute de France Culture. Crashing out in supermarkets, electric fences and guns. You swallow me. I'm a pill on your tongue. Here on the 90th floor, the
it begins to explode. Another people in a dream wait for the machine to pick the shit up, leave it clear.